Chapitre 16e, les îles Mariannes. Guam, Umata, la lèpre. Une voix crie, terre. Ce sont les Mariannes, les îles des Larrons, soit. Mais on trouve là, du moins, si nous en croyons les navigateurs, de belles essieux à forêt, au travers desquels l'air glisse pur et rafraîchissant. Il y a là des eaux limpides et calmes, de l'espérance, presque du bonheur. Voyez sur le navire comme les fronts se dérident, comme les bouches sourient, comme les paroles s'échappent moins graves. Dans la batterie ouverte au souffle de terre, les malades cherchent d'un œil faible les montagnes à l'horizon, et la corbette, poussée par une forte brise, s'élance majestueusement vers la principale île de cet archipel. L'exagération de certains navigateurs est patente, où le pays a perdu de sa fertilité et de ses richesses, car les cimes qui se dessinent, imposantes au milieu des nuages, sont nues, âpres, couronnées d'énormes blocs de roches noires et volcaniques. À leur base pourtant, à mesure que nous approchons, nos regards se reposent sur quelques touffes de verdure assez riches. Mais dès que le sol monte, avec lui se déploie, comme pour pavoiser le rivage, un vaste et admirable rideau de palmiers, de cocotiers, de rimas, de bananiers, si beaux, si éclatants de leur jeune couleur, que tous mes souvenirs perdent de leur richesse. Après avoir longé la côte de Guam pendant une demi-journée et touché presque de la main l'île des Cocos, qui ferme de côté la rade du Mata, nous laissâmes tomber l'ancre à deux encablures à peu près du rivage et non loin d'un navire espagnol arrivé la veille de Manille. La rade, dont le fond est délicieux, est défendu par trois forts appelés l'un la Vierge des Douleurs, l'autre Saint-Ange et le troisième Saint-Vincent. Le gouverneur de la colonie, venu à Umata pour recevoir les nouvelles que le trois Malapaz lui apportait, nous reçut avec une cordialité si franche, il donna un emplacement si propre, si bien aéré à nos pauvres éclopés, il témoigna tant d'égards, que nous ne crûmes pas devoir l'affliger par une étiquette qu'il aurait peut-être prise pour une réserve offensante. Une heure après, nous nous promenions dans les salons de son palais. Le village du Mata se compose d'une vingtaine de mauvaises cases en arêtes de cocotiers, assez bien liées entre elles et bâties sur pilotis. Le palais du gouvernement est long, large, imposant, à un seul étage, orné d'un balcon de bois, avec usine et chambre à coucher. Cela ressemble admirablement à ces cages carrées et glissantes jetées sur la Seine à l'usage des blanchisseuses de la capitale. Patience, nous verrons beaucoup mieux plus tard, et Guam nous réserve d'autres merveilles. Quant aux spectres hideux qui peuplent les maisons, c'est chose horrible à voir. Voici les femmes vêtues d'un lambeau d'étoffe sale, puante, nouée à la ceinture et descendant jusqu'aux genoux. Le reste du corps est absolument nu. Leurs cheveux sont mêlés et crasseux, leurs yeux ternes, vitrifiés, leurs dents jaunes comme leur peau, leurs épaules, leurs cous, rongés de lèpre, traçant tantôt de larges rigoles, tantôt creusant la chair, le plus souvent dessinant partout des écailles serrées de poissons ou des étoffes moirées, en recul d'horreur et de pitié. Les hommes font plus mal à voir encore et l'on serait tenté de frapper de verges ces larges et robustes charpentes que la douleur et les maladies rongent sans les abattre, et qui meurent enfin, parce que la mort dévore tout. Autour d'eux sont de vastes et belles forêts, sous leurs pieds une terre puissante. L'air qu'ils respirent est parfumé, l'eau qu'ils boivent est pure et limpide. Les fruits, les poissons dont ils se nourrissent sont délicats et abondants. Mais la paresse est à leur porte. Elle se couche avec eux dans les hamacs, la paresse honteuse qui les abandonne dans des rayons fangeux, qui les inonde de vermine, qui les abrutit, les énerve, les dissèque. Oh, je vous l'ai dit, Umata soulève le cœur. Monsieur Medinilla, gouverneur omnipotent de cet archipel isolé, Monsieur Medinilla, dont je vous parlerai plus tard, et envers lequel j'ai un tort grave à me reprocher, me répondit, quand je lui parlais de ces êtres misérables qu'on voyait ça et là étalés au soleil leurs plaies livides. C'est une population condamnée. Pourquoi donc? Elle est toute lépreuse, ma capitale offre un bien autre aspect. Mais les gens de votre capitale viennent jusqu'ici, et j'ai vu plusieurs de vos serviteurs serrer la main à ces malheureux. La lèpre n'est-elle donc pas contagieuse? Elle l'est. Mais si l'un de mes gens devient lépreux à son tour, je le chasserai et le relèguerai à Umata. Pourquoi ne pas empêcher ce dangereux contact? Pourquoi ne pas prévenir un malheur? Pourquoi ne pas forcer ces hommes au travail qui donnent de la force, de la souplesse aux muscles? Ce qui les tue, c'est la paresse. Non, c'est la malpropreté. Et je suis sans puissance contre cet horrible fléau qui pèse ici sur toutes les familles vivant loin de ma capitale. Vous parlez avec bien de l'intérêt de votre capitale. Est-ce qu'elle ressemble effectivement à une ville? Oui, mais à une ville à part. À une ville unique en son genre. C'est une cité ou une forêt, comme vous voudrez. Y a-t-il un palais aussi brillant que celui du Mata? J'espère que vous m'offrez l'honneur d'y venir. Vous déciderez ensuite s'il mérite vos épigrammes. Hélas, Umata m'épouvante. Cependant, nos malades se rétablissaient à vue d'œil. Leur force renaissait comme par enchantement, et nous fûmes bientôt en état de repartir pour nous rendre près du mouillage d'Agania, capitale de l'île de Guam. La côte, sous quelque aspect qu'elle se présente, est riche et variée. Mais de nombreux récifs sur lesquels le flot mugit et bouillonne en défendent les approches, et le mouillage même, où nous jetâmes l'ancre, est difficile et tellement périlleux qu'on ne peut guère y stationner que dans les belles saisons. Les vents violents du nord ne soufflent que rarement dans la rade de Saint-Louis, protégée par l'île aux Chèvres et le morne Dorothée, sur lequel on a élevé une inutile batterie. Au reste, j'engage fort les capitaines de navires à mouiller à Umata plutôt qu'ici, car les hauts fonds y sont très nombreux et restent souvent à sec dans les basses marées. Sur une de ces rochemins driporiques, une citadelle bâtie à grands frais présente quelque apparence de sécurité contre une attaque extérieure. Mais quel navire viendra jamais s'embosser là pour essayer une tentative sur Guam? Quand nous nous vîmes condamnés à ne pas sortir de quelque temps de cette rade si belle pour le paysagiste, si effrayante pour le marin, nous nous rappelâmes que le gouverneur nous avait parlé à Guam d'une de ces îles, célèbre par le séjour que l'amiral Hanson y fit lors de son grand voyage et où, d'après M. de Medinilla, nous devions trouver de curieux monuments antiques. Nous en parlâmes alors au commandant, qui nous autorisa, messieurs Godichaud, Bérard et moi, à entreprendre, dans nos frêles embarcations, ce périlleux voyage. Témérité soit, mais voir, c'est avoir, a dit le poète, et nous voulions posséder. Et puis on meurt si bien en compagnie. Ainsi donc, laissant nos amis à bord de la corvette, nous nous embarquâmes dans un canot et mîmes le cap sur Agania, notre véritable point de départ. Il va sans dire que Petit et Marchais furent choisis par nous pour nous accompagner dans cette première course, fort affligés qu'ils étaient déjà de ne pas nous escorter jusqu'à Tinian. Le canal entre Guam et l'île aux Chèvres n'a pas plus de 6 000 dans sa plus grande largeur, ni moins de 3 dans sa plus petite. Cette île est couverte d'arbustes, pour la plupart assez inutiles, mais parmi lesquels cependant on trouve le Sika, appelé dans le pays Federico, dont les habitants de cet archipel font leur principale nourriture. Il n'y a pas d'eau douce, excepté celle qu'on recueille parfois dans un réservoir de plus de 400 pieds de diamètre, alimenté par les pluies et creusé sans doute par les premiers conquérants des Mariannes. Mais en revanche, la côte de Guam offre de toutes parts l'aspect le plus riche et le plus varié. Les récifs poursuivent leur cours jusqu'à Agania et laissent à peine 3 passages fort difficiles, même pour les embarcations. Le premier est vis-à-vis de Tupunian, ville d'une 15aine de maisons que Marchais nous proposa d'aller prendre d'assaut lui tout seul, armé d'une des jambes de Petit. À cette plaisanterie, celui-ci, dont le soleil avait probablement échauffé le cerveau, riposta par un quolibet plus innocent encore. Mais Marchais fit un mouvement du coude, Petit voulut parer, et perdant l'équilibre, il tomba à l'eau. Oubliant que son adversaire nageait comme un marsouin, Marchais, dont le cœur n'était jamais en défaut pour rendre un service, l'y suivit afin de lui porter secours, et c'est ce que voulait le rusé Petit, qui, plus fort dans cet élément, avait enfin trouvé l'occasion de se venger des 1001 coups de pied vigoureux dont Marchais l'avait généreusement gratifié. Jamais combat ne fut plus amusant, plus rempli d'épisodes. Marchais était furieux et avalait, en écumant de rage, gorgée sur gorgée d'une eau salée et boueuse, tandis que Petit, dans ses rapides évolutions, échappait à toutes les manœuvres de son antagoniste. Nous mîmes trêve enfin cet acharnement des deux combattants qui arrêtaient notre marche, mais Petit ne consentit à monter à bord qu'après que nous eûmes obtenu de Marchais sa parole d'honneur, qu'il ne garderait aucune rancune de cette lutte d'amis, où pour la première fois la victoire lui avait échappé. Le second passage est par le travers d'un Iégua, bourg aussi misérable que tout pognon, et où la lèpre n'est ni moins dangereuse ni moins répandue. La route nous paraissant belle par terre, mes deux compagnons et moi résolûmes de la parcourir à pied jusqu'à Agagna, distant encore de 6 000. Partout une terre riche et belle, partout les arbres les plus élégants et les plus majestueux à la fois, mais point de culture, point de travaux utiles pour diriger les eaux des torrents descendant des montagnes. Enfin, nous trouvâmes un hôpital de lépreux. J'y entrai puisque mon devoir m'y appelait. J'y dessinai quelques-uns des malheureux qui erraient ça et là comme des fantômes, le long des murailles décrépites, et 20 fois je fus tenté de m'échapper de ce séjour de misère et de malédiction. Toutes les parties saillantes des infortunés qu'il renfermait étaient attaquées avec une violence extrême. Pas un n'avait donné, et la plupart perdaient leur langue, tombant en lambeaux. La lèpre est ici l'hôte fatal de chaque demeure. Elle croit avec l'enfant qui vient de naître. Timide, elle l'escorte encore dans son adolescence, elle grandit et se fortifie avec lui. Elle l'écrase dans un âge avancé, elle le pousse à la tombe. Et nous allons, nous, hommes sains et forts, cœur bon et généreux, l'étudier dans ses ravages, visiter le malheureux qui en est vaincu, comme si c'était là un spectacle doux à l'âme, un tableau consolant, une image de paix et de bonheur. Sentinelle toujours debout, la lèpre est permanente à Umata, je vous l'ai déjà dit, et cependant quelques individus encore n'en sont point atteints. Patience, elle a les bras longs et les ongles aigus, l'horrible maladie dont je vous parle. Lorsqu'elle laisse passer auprès d'elle un corps sans le tordre et le creuser, c'est que Dieu, dont la force est plus grande, a étendu la main et a dit « Assez ».